On rejoint notre vulgarisateur scientifique Philippe Duchamp. Bonjour Philippe.
Bonjour Élisane, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Très très bien, merci.
Philippe, tu commences ta chronique en nous parlant d'une nouvelle piste pour expliquer l'autisme.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une étude qui conclut qu'une mauvaise régulation du calcium dans le cerveau, ça pourrait être à la source de l'autisme. C'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs ici au Québec, là, à l'Université McGill, sous la direction du professeur Derek Bowie. Donc, l'autisme, petit rappel, qu'est-ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme? C'est un trouble permanent du développement du cerveau. Les personnes autistes, on le sait, vont avoir une communication, une façon d'établir des liens avec les autres personnes un peu différente. Ça peut avoir des répercussions sur les interactions sociales et leur communication avec les autres. Et l'autisme, la cause de l'autisme ou les causes, sont inconnues pour le moment. C'est-à-dire que on suspecte qu'il y a plusieurs facteurs en cause. La génétique aussi, certainement, et des facteurs environnementaux qui peuvent jouer dans le déclenchement de la maladie, l'apparition. Depuis longtemps, là, il y a plusieurs chercheurs qui s'efforcent de trouver des facteurs, d'identifier des facteurs qui peuvent accroître la probabilité qu'une personne soit autiste. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que des recherches qui ont montré qu'il y avait un lien qui existe entre des anomalies d'une molécule qu'on appelle AMPA et l'autisme. Qu'est-ce que c'est AMPA? C'est un récepteur qu'on retrouve à la surface des neurones, un récepteur qui normalement va être activé par un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Donc ça, c'est une petite molécule qui permet à deux neurones de communiquer entre eux. C'est un récepteur qui est très important au niveau, par exemple, de l'apprentissage et de la mémorisation. On va se rapprocher maintenant de ce que les chercheurs montréalais ont fait à l'Université McGill. Donc, cette équipe-là de recherche sous la direction du Dr Bowie, ils ont démontré l'année passée là, que ce récepteur-là, là, il transporte des ions de calcium et que ça, c'est nécessaire pour la communication entre les neurones, donc pour le bon fonctionnement. Et là, dans leur étude de celle que je veux vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette chronique-là, les chercheurs ont trouvé qu'il y a des anomalies du calcium dans le cerveau chez trois enfants autistes. Dans deux cas, là, la quantité de calcium est trop élevée, puis dans un autre cas, il n'y en a pas assez. Donc, c'est ce qui a amené les chercheurs à se dire « Ouais, il y a probablement un lien entre les anomalies de calcium » en lien avec ce récepteur-là, le récepteur AMPA, et l'autisme. Puis, ils pensent même que ça pourrait avoir des liens avec d'autres troubles neurologiques comme la sclérose en plaques.
C'est quand même intéressant, bien que c'est vraiment au début, là, parce que, bien sûr, il faut comprendre maintenant pourquoi certains en ont trop, pourquoi certains n'ont pas assez, puis comment ça joue. Mais effectivement, il faut commencer quelque part. Là. Tout à fait.
Et ce qui est très intéressant de cette nouvelle-là, c'est que de cette recherche-là, c'est que ça ouvre peut-être une autre voie possible pour chercher des médicaments, chercher des traitements qui pourraient corriger l'anomalie de calcium par l'entremise de ce récepteur-là, le récepteur AMPA. Donc ça, c'est ce qu'on va souhaiter dans les prochaines années, qu'on puisse arriver à trouver des nouvelles molécules qui vont agir vraiment spécifiquement sur ce récepteur-là qui est en lien avec le transport du calcium. Donc c'est la grande nouvelle importante qu'on peut retirer d'une étude comme celle-ci.
Et ce sera évidemment à suivre là, dans plusieurs années, parce que ça va prendre plusieurs années avant d'avancer cette piste-là suffisamment pour bien comprendre. Tu nous parles également d'un stimulateur cardiaque miniaturisé.
Absolument. Donc ça va être assez spectaculaire. Donc, on va être dans le domaine des troubles du rythme cardiaque, donc quand le cœur ne bat pas au rythme correctement. Un problème qui touche quand même 2% de la population générale. Et par exemple, au Canada, il y a près de 200 000 Canadiens qui portent un stimulateur cardiaque. Donc, c'est quand même assez commun. Maintenant, ce dont je vais vous parler, donc c'est une innovation technologique faite par des chercheurs américains qui ont créé un stimulateur cardiaque temporaire quand le cœur ne bat pas assez rapidement, autrement dit. Mais là, tenez-vous bien, c'est un stimulateur qui fait à peu près 4 mm de longueur, 2 mm de largeur et seulement 1 mm d'épaisseur. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, là, on est dans quelque chose qui est plus petit qu'un grain de riz.
Oui, il ne faut pas y échapper, hein?
Oh que non! On va le chercher longtemps, ça, c'est sûr. En comparaison, là, un stimulateur cardiaque comme on utilise aujourd'hui, là, c'est environ la taille d'une pièce de 2 $. Ça vous donne aussi un ordre de grandeur ici. Ce petit appareil-là, ben, l'avantage qu'il offre, là, c'est qu'il pourrait être utilisé dans des interventions beaucoup moins invasives. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une chirurgie. On pourrait l'implanter tout simplement avec une seringue, là, par injection dans le cœur. Ça peut être aussi un outil qui pourrait être mieux adapté pour les enfants et peut-être même aussi pour les nouveau-nés. Là. Par exemple, des nouveau-nés qui sont atteints de malformations cardiaques
congénitales. C'est sûr qu'à ce moment-là, la grosseur compte, là.
Exactement, exactement. Ce petit stimulateur-là, là, gros comme un grain de riz, là, je le rappelle, là, ben, il y a à l'intérieur une petite batterie. On imagine comment ça doit être petit, ça. C'est une batterie qui va pouvoir convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, donc faire des impulsions pour le cœur. Ce petit grain de riz-là qu'on implante dans le cœur, ben, il y a une durée de vie jusqu'à 2 ans et demi. Contrairement aux stimulateurs temporaires, qui, eux, ont une durée de vie d'environ 30 jours. Après ça, il faut les remplacer. Le stimulateur ne fonctionne pas tout seul. Il y a un autre petit truc, un autre petit gadget qu'on met sur la surface de la peau, au niveau de la poitrine. Ce petit appareil-là va détecter les irrégularités du battement de cœur, des battements de cœur. Puis quand il en détecte, bien, il envoie un petit signal au niveau de l'implant, au niveau du cœur, pour que cet implant-là, le stimulateur cardiaque, oui, c'est ça, pour que celui-ci puisse corriger l'anomalie du battement cardiaque.
Oui.
Et je vais compléter avec un dernier avantage lié à cet implant-là, c'est qu'il est bio-résorbable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se dissoudre par lui-même dans l'organisme une fois que sa durée de vie a été atteinte. Donc, on n'a pas besoin d'une opération pour aller l'enlever. Il va s'éliminer par lui-même, tout simplement.
Ça aussi, c'est quand même bien, surtout si on peut donc y injecter avec une seringue, là, comme on fait avec les micropuces. Et par la suite, il s'en va. Donc, en tous les cas, là, ça devient assez facile à gérer là, à toutes les 2 ans et demi de se faire simplement faire une nouvelle piqûre là, pour en avoir un nouveau. Puis ça se règle comme ça, là.
Absolument. C'est pas encore testé chez des humains. Là, on l'a testé chez des souris et des porcs. On l'a testé sur des cœurs, mais des cœurs humains, mais de donneurs d'organes.
Oui.
Donc, la prochaine étape, c'est de le tester véritablement dans un être humain, de vérifier s'il est sécuritaire. Puis, si tout va bien, ben, il y aura d'autres tests, puis on va peut-être pouvoir voir cette technologie-là apparaître de façon plus courante dans les peut-être 5-10 prochaines années, qui sait.
Mais c'est quand même encourageant, là. Quand ça marche sur des vrais cœurs de donneurs, là, on peut imaginer que ça risque de bien fonctionner.
On se rapproche beaucoup de la finalité, là, effectivement.
Et finalement, on parle aussi de quelque chose qui est quand même assez surprenant, là. On en parlait un peu en science-fiction, mais là, ça devient quelque chose qui serait de plus en plus réel, là. De penser à la parole, donc c'est-à-dire de pouvoir penser nos paroles là, sans parler et puis être capable de communiquer avec la pensée, finalement.
Absolument. Donc, t'as bien résumé. Donc, effectivement, un implant qu'on pourrait, donc, une espèce d'interface ordinateur-cerveau, mais qui permet de traduire la pensée en parole. Et dans ce cas-ci, ça se fait de façon quasi instantanée. Il y a des chercheurs, donc, californiens qui ont mis au point, il n'y a pas très longtemps, une interface cerveau-ordinateur, on appelle ça comme ça, là, qui permet de traduire chez une patiente tétraplégique qui ne peut plus parler, ben cet appareil-là pouvait décoder la pensée, la transcrire en parole, mais ça, là, il y avait un délai de 8 secondes. Donc, entre le moment où elle pense à quelque chose et le moment où la machine le dit, il pouvait y avoir 8 secondes de délai. Donc, on imagine un petit peu le décalage dans la conversation que ça peut créer. Ben, ce nouvel interface-là, là, celui dont je vais vous parler, ben, il réduit l'intervalle à combien? Ben, à 80 millisecondes. Fait qu'on peut pratiquement dire qu'il n'y a pas de délai, là. Du moment qu'on pense, la parole se met automatiquement en branle, tu sais. Fait que c'est quand même assez spectaculaire. Un implant qui n'a pas besoin de pénétrer dans le cerveau, là, c'est des faisceaux d'électrodes qui vont capturer les signaux cérébraux de la personne puis qui va les convertir en voix. Et dans ce cas-ci, pas n'importe quelle voix, c'est la voix de la propre personne. C'est-à-dire que grâce à des enregistrements de sa voix avant son accident, oui. Ben la machine est capable de répliquer la voix de cette personne-là. Fait que ça doit être assez spécial d'entendre une machine parler avec notre propre voix.
Oui, ça doit être très spécial, mais en même temps, ça balaye un peu quelque chose. Ça rend ça plus efficace au quotidien pour la personne, là, puis oui. Peut-être moins médical là, comme approche.
Absolument. Pour l'instant, c'est une interface qui fonctionne avec un vocabulaire limité. Là. Et ça, la machine peut prononcer à peu près 1000 mots, quelque chose comme ça. C'est donc une innovation qui est au stade de preuve de concept. Ça veut dire qu'on a démontré que ça marche, que ça fonctionne, mais on n'est pas encore rendu à l'étape où on peut le commercialiser. Là. Il y a beaucoup encore de travaux à faire dessus pour l'améliorer, le rendre plus accessible, augmenter le lexique, hein, rendre oui. plus polyvalent au niveau du nombre de mots. Puis, ben voilà, mais c'est une nouvelle vraiment encourageante pour les personnes qui ont perdu la parole suite à un accident tragique, là, puis qui ne peuvent plus s'exprimer comme auparavant.
Ça fait longtemps qu'on parle de ça, là, donc là, on dirait qu'on a quelque chose de solide là, pour une fois. Donc, mm-hmm. Ça sera aussi à suivre, Philippe, dans les, oui. prochaines, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Philippe, pour ton intervention aujourd'hui.
Ben, ça me fait bien plaisir.
On se retrouve probablement un peu plus tard pour la prochaine saison.
Ben,
donc, bonne journée pour toi.
Toi aussi, pareillement.